16, 8, 9 et 3. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui 21 février 1944, il y a 60 ans, l'affiche rouge des étrangers dans la résistance.
Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillés cet après-midi à 15h. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter à la douceur de la liberté et de la paix de demain. Missak Manoukian, 21 février 1944.
D'histoire. Il y aura demain 60 ans, le 21 février 1944, au Mont Valérien, les Allemands fusillaient 22 résistants communistes. Ils appartenaient à une des organisations les moins connues de la résistance française, les FTP-MOI, les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée. À part trois d'entre eux, tous en effet étaient des étrangers. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à leur habitude, les autorités d'occupation avaient décidé de donner un maximum de publicité à leur exécution. Quelques jours après leur mort, dans toutes les villes de France, on pouvait voir la photo de 10 d'entre eux sur une affiche rouge destinée à montrer que la résistance n'était qu'un ramassis de tueurs à la solde de l'étranger. Mais au lieu de provoquer la peur ou le dégoût recherché, cette affiche rouge a fait exactement le contraire. Elle a transformé en héros et en martyrs ceux que les Allemands et leurs collaborateurs français appelaient des terroristes.
L'actualité politique. À Paris, M. Albert Clément, rédacteur en chef du Cri du Peuple, est assassiné par des terroristes. À Vichy, M. Paul Marion, secrétaire d'État à l'information, dénonce les crimes anglais et russes. Bombardement de populations civiles, assassinat terroriste. De telles mœurs ne relèvent plus des lois de la guerre, mais de la pratique de l'assassinat collectif et privé. Le maréchal proclame.
Notre pays traverse des jours qui compteront parmi les plus douloureux qu'il ait connus. Excité par des propagandes étrangères, un trop grand nombre de ses enfants se sont livrés aux maîtres sans scrupules qui font régner chez nous un climat avant-coureur des pires désordres. Français, quiconque parmi vous participe au groupe de résistance compromet l'avenir du pays.
Benoît Reisky, bonjour.
Bonjour.
Il y a 60 ans, sur tous les murs de France, on a pu voir une des plus célèbres affiches de l'époque de l'occupation, cette affiche rouge, sur laquelle les Allemands avaient mis la photo de 10 terroristes, comme les appelait la radio de Pétain, 10 résistants fusillés quelques jours plus tôt au Mont Valérien, et que l'on retrouve dans un livre que vous venez d'écrire, l'affiche rouge. Ce qui me frappe en vous lisant, c'est la jeunesse de ces fusillés, de ces résistants, parce que les plus jeunes d'entre eux, ben, ils auraient 79 ans aujourd'hui, mais à l'époque, ils en avaient 19, c'était des gamins.
Oui, il y en a qui en avaient 16, il y en a qui en avaient 17. Écoutez, dans ce monde-là, celui de la FTP-MOI, et pas seulement le monde des gens de l'affiche rouge, les combattants ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, et les vieux, entre guillemets, ont 28 ans, 29 ans, les vieux, ce sont aussi des militants communistes, ce sont aussi pour la plupart des étrangers, mais ils sont passés par Madrid. Ils ont fait la guerre d'Espagne, ils ont des rudiments, si j'ose dire, militaires et guerriers, et tous les autres, comme le dit un des condamnés, pas celui de l'affiche rouge, mais un autre, nous ne sommes que des enfants, ils ne se vivaient pas comme des héros, ce sont vraiment des enfants, mais sans doute à cette époque, dans ces milieux-là, on grandissait vite.
Autre point commun, Benoît Reisky, ils étaient donc, vous l'avez dit, presque tous des étrangers, ils appartenaient à une organisation qui avait été créée dans les années 20 par le Parti communiste, bien avant oui. La guerre, bien avant la résistance, c'était la MOI. Pourquoi est-ce que le Parti communiste a créé cette organisation dans les années 20?
Eh bien, dans les années 20...
La manœuvre immigrée, hein, la MOI.
Oui, ça s'est d'abord appelé, curieusement, pendant quelques années, après ils ont changé pour des raisons qui m'échappent, ça s'est appelé d'abord MOE. Main-d'œuvre étrangère. Est-ce que le mot étranger a gêné le parti ou pas? Je ne sais pas. Et c'est devenu main-d'œuvre immigrée. Ça a été créé sur les ordres ou les consignes de l'Internationale communiste, qui quand même dirigeait de facto le PC français, parce qu'il y avait une internationale syndicale. Et il se trouve qu'en France, il y avait 3 millions d'immigrés dans ce pays, ce qui est un chiffre énorme. La France comptait en Europe, et peut-être dans le monde le plus grand nombre d'immigrés pour la plupart, c'était des Polonais, il y en avait énormément dans le Nord, il y avait des Italiens depuis longtemps sur le pourtour méditerranéen, des Espagnols et aussi des Juifs. Et on crée pour eux, parce qu'il faut bien organiser ces gens-là, parce que le PC organisait, la main-d'œuvre étrangère qui deviendra émoïde. Donc au départ, ce ne sont que des groupes syndicaux de langue. Ça se transforme pendant la guerre, bien entendu, pour ceux qui sont rentrés dans l'organisation militaire du PC, ça se transforme en organisation de combat. Mais au départ, c'est une organisation syndicale pour les étrangers et il n'y a pas de halo de légende à ce moment-là. Ça viendra après.
Il y avait même des Allemands anti-nazis. Je crois que la photo du jeune que l'on voit sur la couverture de votre livre, c'est celle d'un Allemand.
C'est celle d'un jeune Allemand. Il avait 17 ans. Il est fusillé à la suite d'un autre procès, mais il appartient au même monde, le monde communiste des jeunes FTP. Et ce garçon s'appelle Carlo Schanar. Son père, en 1934, est assassiné par la Gestapo. C'était déjà un militant communiste. Il fuit l'Allemagne. Il fait son lycée à Paris. Et dès que la guerre éclate, il rentre en résistance, peut-être à l'âge de 16 ans. Et la dernière lettre de ce garçon, de ce Carlo Schanar, qu'il écrit à sa mère, il l'écrit dans sa langue natale. Il l'écrit en allemand. Et il lui dit cette chose admirable et merveilleuse, « Maman, tu es encore jeune, il est encore temps pour toi de faire un autre enfant pour me remplacer. » Je dis un mot parce qu'il y avait aussi des Allemands qui étaient eux pas des immigrés de travail, si j'ose dire, qui étaient des immigrés politiques. Et il est jeune, il a 17 ans, et tous sont comme lui.
Et tous sont communistes ou proches du Parti communiste.
Oui, ou communisants. Enfin.
Alors, le Parti communiste, il faut le rappeler, en 1939, à cause du pacte germano-soviétique, il est dissous par les autorités françaises. Oui. La guerre n'a pas encore tout à fait commencé. C'est quelques jours avant ou après le déclenchement de la guerre.
C'est quelques jours avant.
La MOI disparaît du même coup. Elle est également interdite. Et ce n'est que un an plus tard qu'on va retrouver, un peu plus d'un an plus tard, qu'on va retrouver ces jeunes de la MOI au sein, justement, de la résistance armée que le Parti communiste déclenche après l'invasion de l'URSS.
Oui, il faut dire que l'action armée du PC commence effectivement après juin 41. C'est précis, c'est daté, même si avant, il y a eu des tentatives pour les organiser. Et là, pour ces gens-là, pour ces jeunes-là, et pour d'autres plus âgés, c'est une période pour eux très difficile. Ils sont communistes, certes. Ils suivent le Parti communiste, certes. C'est leur famille et ils ne peuvent pas la quitter comme ça. Mais tous, parce qu'ils sont étrangers, sont des internationalistes, des antifascistes. Ils ont été élevés dans le culte de la guerre d'Espagne, pour ceux qui n'y ont pas participé. Et la période qui se passe entre le pacte germano-soviétique et 41 est une période de grande détresse pour la plupart d'entre eux, parce que ils ont du mal à être, tout simplement. Parce que ça les gêne, ça les dérange, et je dois dire que l'agression allemande contre l'Union soviétique est pour eux une libération.
C'est une libération, c'est le début donc de leur passage à l'action armée, un passage qui inquiète bien sûr les autorités de Vichy et leur radio.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du Parti communiste auxquels on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement avec son bon sens et son expérience habituelle le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
Alors c'était la propagande de Radio Paris en 1942. On voit bien que ces attentats inquiètent les Allemands, leurs collaborateurs. Ils sont très isolés à l'époque, les communistes qui passent à l'action armée, puisque même à Londres, je crois que le général de Gaulle a condamné ces attentats contre les Allemands sous prétexte qu'ils provoquaient des représailles.
Écoutez, il y a deux attitudes. Il y a la résistance gaulliste, qui, dans ces années-là, après, il y aura les maquis. Il y aura des maquis gaullistes et qui, bien entendu, feront le coup de feu contre les Allemands. Mais ça vient plus tard. Les attentats individuels, les explosions, voire les déraillements de train, sont effectivement proscrits par De Gaulle, qui invoque, et ça peut se comprendre, le fait qu'à chaque fois, il y a des otages qui sont fusillés. On en fusillait énormément. Il y a des milliers d'otages qui ont été fusillés. Le Parti communiste est dans sa stratégie habituelle, révolutionnaire, de tradition. Même si, en l'occurrence, il suit, comment dirais-je, les consignes qui viennent d'Union soviétique et qui disent, il y a les télégrammes qui sont là, on les connaît, qui disent, il faut qu'il y ait des guérillas partout. Il faut se battre, tuer l'ennemi partout où on peut. Alors, la France, c'est pas l'Ukraine, mais il faut agir de la même façon. Et pour la majorité des militants communistes, le nazisme étant le stade suprême de ce qu'il haït, c'est ce qu'il déteste, il n'y a pas de difficulté à tuer des Allemands et à tuer des collaborateurs français. Mais en même temps, ils sont à part. Bien entendu, ils sont à part, sauf peut-être, on va le dire, pour les Juifs, parce que les Juifs ont un terreau local, communiste, ils vivent dans la population juive, et ce que les Allemands font à la population juive à cette époque, c'est-à-dire les déportations, les chambres à gaz, on sait déjà, les femmes, les enfants donne effectivement envie de tuer.
Ah, Benoreski sont également, évidemment, pourchassés par la police française de Vichy, qui d'ailleurs met sur pied une section spéciale, enfin ce qu'on appelait, je crois, les brigades spéciales, chargées justement de pourchasser les terroristes, comme
oui,
il disait.
C'est des brigades spéciales qui comptaient entre 200 et 300 inspecteurs chargés de ça. Chargé de ça, des inspecteurs qualifiés, parce que la police française était une bonne police, si j'ose dire. Les Allemands n'avaient pas la moindre capacité de faire le dixième de ce que les brigades spéciales ont fait. Et tous les gens qui tombent, si j'ose dire, entre les mains des nazis, que ce soit les gens de la Fiche Rouge, les gens de la FTP, les gens de la FTP-MOI, c'est le travail des brigades spéciales, qui après, selon les cas, livrent aux Allemands. Et les Allemands condamnent et fusillent, mais c'est les brigades spéciales qui font le travail, c'est les brigades spéciales qui arrêtent. Ils sont effectivement très performants et ils mettent des centaines de gens pour faire des filatures. Et quand on met beaucoup de gens pour faire des filatures, ça marche toujours.
Ils vont démanteler effectivement en 43 pratiquement tous les réseaux de la FTP et MOI, dont en arrêtant notamment le groupe Manoukian, c'est-à-dire en fait le groupe de la MOI de Paris, les 23 membres du groupe Manoukian qui seront condamnés à mort et surtout dont la photo de 10 d'entre eux va être, c'est cette fameuse affiche rouge, va être placardée sur tous les murs de France. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que jusque-là, les Allemands évitaient de parler de la résistance, ça prouvait qu'elle existait, ça pouvait évidemment faire des émules. Là, en revanche, ils montrent la photo de 10 d'entre eux sur tous les murs de France. Pour quelle raison, Benoreski ?
Nous sommes en 44. La guerre a suivi une autre évolution. À ce moment-là, elle n'est plus si favorable que ça aux Allemands. Les attentats se multiplient en France. Les maquis commencent à agir un peu partout. Et la grande idée des Allemands, et celle de Vichy, là-dessus, ils sont vraiment la main dans la main. Ça correspond à la même idéologie. Il s'agit de montrer que cette résistance-là est le fait de métèques. Pour reprendre un terme qui est avant la guerre était connu, le fait d'étranger, qu'elle n'a rien de français, parce que ce que font ces quelques dizaines de combattants à Paris, il n'y en avait pas plus que ça à certains moments, hein, peut-être 50 ou 100, ils font attentat sur attentat, ça n'arrête pas, c'est un travail à la chaîne, ils font des attentats tous les jours, il y en a qui font 3 attentats par semaine, et Paris est une ville effectivement où les Allemands tombent sans arrêt, et il faut absolument montrer que ça c'est l'étranger, et en l'occurrence pour être précis, le judéo-bolchevisme, d'où ces affiches.
Les libérateurs, Grivach, juif polonais, 2 attentats. Et Lek, juif hongrois, 8 déraillements. Weisbrot, juif polonais, 1 attentat, 3 déraillements. Vichich, juif polonais, 15 attentats. Fingerweg, juif polonais, 3 attentats, 5 déraillements. Bogzov, juif hongrois, chef dérailleur, 16 attentats. Fontano, communiste italien, 12 attentats. Alfonso, espagnol rouge, 7 attentats. Reimann, juif polonais, 13 attentats. Manoukian, arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. La libération par l'armée du crime.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, qui cherchait un effet de peur sur les passants. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'affiche rouge.
Et c'était Léo Ferré, l'affiche rouge, d'après un poème d'Aragon écrit en 1955, 11 ans après l'exécution des 23 membres du groupe Manoukian, dont 22 ont été fusillés le 21 février 1944, il y a 60 ans, il y aura 60 ans demain. Le 23e étant une roumaine, une femme roumaine, Olga Bankic, qui a été décapitée en Allemagne le 10 mai 1944 après un procès auquel les Allemands ont voulu donner un maximum de publicité. La revue de presse, Stéphanie Duncan.
Oui, le procès s'ouvre à Paris, à l'hôtel Continental, à grand renfort de publicité. Un film est tourné pendant le procès et exceptionnellement, des journalistes même sont présents. Une presse aux ordres, bien sûr, parce qu'elle doit attendre 24 heures pour rendre compte des débats. Sa mission est claire, rendre détestables et effrayants ces bandits, ces étrangers, à peine des hommes, qui ne peuvent en aucun cas être des patriotes. On lit par exemple dans Paris Soir, ces jeunes garçons ont accepté pour 1300 francs par mois de devenir des bandits de droit commun, d'ignobles et lâches assassins à la solde des étrangers et des juifs, dont le but n'est que trop évident, achever le pays blessé qui n'a eu que le tort de leur ouvrir trop grandes ses frontières. Pour Le Matin, autre grand journal de la collaboration, si les uns, les juifs, ont déclaré avoir tué par désir de vengeance, les autres n'ont trouvé à leur enrôlement que des raisons dont la puérilité dépasse l'entendement, l'appât d'une fausse identité, quelques tickets de pain et une propagande faite pour des esprits naturellement abêtis. Le journal L'Œuvre met en avant quand même leur appartenance politique. Bien que la plupart des inculpés se défendent d'être communistes, leur organisation, comme par hasard, est calquée sur celle du Parti communiste clandestin et des FTP que contrôlent les hommes de Moscou, Londres et Alger. Le journal Les Nouveaux Temps insiste sur le fait que beaucoup de ces hommes sont juifs. Le juif sans patrie qui a pris rang parmi les patriotes entend en réalité nous amener le chaos bolchevique dont il est le seul à tirer profit. Alors le pire dans tout ça, c'est sans doute le portrait physique fait par Le Matin de Missak Manoukian, décrit comme un animal. Des cheveux de jais, des yeux de nuit, des sourcils touffus dont les pointes s'allongent sur les tempes, où elles rejoignent les pattes, la partie inférieure du visage avancée comme un groin. Et de ses compagnons, Le Matin écrit, ils n'ont rien dans les yeux, qu'une sorte d'inconscience bestiale qui vous donne le vertige. C'est ça l'avant-garde de l'armée de la libération, ironise L'Œuvre. Alors je terminerai par quelque chose de plus beau, je dirais, un extrait de la lettre que Missak Manoukian a écrite à sa femme juste avant d'être fusillée. « Ma chère Mélinée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé, que je dis adieu à la vie, à vous, ma chère femme et mes chers amis. »
Un commentaire sur ces textes, Benoît Reski, très différent évidemment entre la lettre de Manoukian qui a été fusillée, je rappelle, le 21 février 44 et ce qui précède, ce qui a précédé.
Donc, sur les textes de la collaboration, on va les juger infâmes, répugnants, dégoûtants, mais ils sont, c'est frappant, parce que quand on entend les termes, ils sont dans la tradition, comment dirais-je, de l'antisémitisme d'extrême droite d'avant-guerre. Mmh. Où le juif était très souvent montré par ses aspects physiques assez répugnants. Déjà, là, c'est pas quelque chose qui a été inventé, ça se nourrit de toute une presse qui a existé entre deux guerres et qui avait, j'ose pas dire ses lettres de noblesse, mais qui avait son droit de citer. Et il y a pire, il y a un autre journal, c'est pas pour vous reprocher de pas l'avoir mis, qui écrit la chose suivante, et pensez donc, on leur a dit de l'écrire. Reymann a déclaré au procès qu'il aimerait voir les rues de Paris pavées de têtes de femmes et d'enfants goy. Donc, on imagine.
Est-ce que, justement, quel était l'impact sur l'opinion publique? Parce qu'il y a eu cette presse que tout le monde pouvait lire, il y a eu l'affiche rouge. Est-ce que ça a influencé les Français qui voyaient tout ça? Et dans quel sens?
Écoutez, je ne suis pas historien, mais ce que je pressens, c'est que nous sommes en 44. Le régime de Vichy, aux yeux de la plus grande partie de la France, est un régime condamné. Je ne dis pas qu'il a toujours été réprouvé. Il est condamné. Il s'est allié aux Allemands. Les Allemands vont être battus. On le sait, on le sent. Je ne pense pas que ça ait un grand impact. Sauf peut-être quand même d'insister sur le fait qu'ils sont étrangers, parce que quand on lit la presse communiste clandestine de l'époque, elle s'évertue, et on peut la comprendre, sans nécessairement l'approuver, à dire qu'ils ne sont pas étrangers, à le dire qu'ils sont français, à dire que ce sont des patriotes français, parce que c'est une propagande qui fait mal. Alors cet aspect-là, c'est assez difficile à démêler, si vous voulez ce que je veux dire.
Et comment se fait-il que après la guerre, on ait très vite oublié ces combattants, les FTP, MOI, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont retournés dans leur pays, c'était des antifascistes qui n'avaient plus de raison d'être loin de chez eux une fois que le fascisme était tombé. Certains ont même été chassés pendant la guerre froide parce qu'ils étaient communistes, renvoyés dans leur pays. Quand c'est-il qu'on les ait oubliés? Il y a eu ce poème, évidemment, d'Aragon en 55, mais je crois qu'à l'époque, peu de gens le connaissaient.
Écoutez, c'est un phénomène qui est complexe. Après la guerre, il y a des célébrations de l'affiche rouge et des 23. Elles n'ont pas l'écho qu'à aujourd'hui l'affiche rouge, c'est tout à fait indéniable. Le Parti communiste français, que je dis comprendre sans l'approuver, a besoin d'être un parti national, pas un parti à la solde de l'étranger. Il ne lui est pas agréable d'insister sur le fait que, au moins à Paris, la majorité de ses combattants étaient soit juifs, soit étrangers. Il a plutôt besoin de Jeanne d'Arc, il a plutôt besoin de Hugues Clin pour être le parti de la France, ce qu'il est. Et en plus, il est qualifié, le malheureux, d'être le parti à la solde de Moscou. Ça fait beaucoup. Donc, il est patriotard.
Donc, il n'en parle pas beaucoup lui-même.
Il n'empêche qu'il y a ce poème précédé par un poème d'Éluard aussi avant. Mais ça n'a pas l'écho que ça a aujourd'hui.
Alors, beaucoup, effectivement, de ces combattants résistants et étrangers de la MOI se sont tus, comme c'est le cas d'ailleurs d'Henri Krasucki, qui a été arrêté et déporté en Allemagne en 43 et qui a refusé de parler de sa participation à la résistance avant d'avoir quitté ses activités syndicales à la tête de la CGT. Écoutez ce qu'il me disait en 1996 sur la leçon qu'il fallait tirer de l'expérience qu'il avait vécue au sein de la résistance étrangère.
Ces étrangers, ils ont combattu, ils ont risqué, ils ont souffert et beaucoup ont donné leur vie pour la France et pour la liberté. Ils ont contribué à écrire une belle page de l'histoire de France et les survivants se sont tout naturellement intégrés dans notre peuple, dans la nation française. La MOI, en somme, c'est un clin d'œil de l'histoire à la vie contemporaine. Le racisme, la xénophobie, ça peut conduire au pire, on l'a vécu. Et cela abaisse l'homme. Mais la réponse des immigrés de cette époque-là ne manque pas de grandeur. Mais pourquoi est-ce que ce serait valable seulement hier et quand la France est dans le malheur? Il y a là, aujourd'hui, une richesse humaine, des atouts pour la France. Il faut savoir agir en conséquence pour vivre et construire ensemble.
C'était Henri Krasucki qui est mort il y a un an, janvier 2003. Un commentaire sur ce que tu viens de dire, Benoît Reski?
Oui, d'abord c'est très émouvant de l'entendre. Krasucki avait 16 ans et des poussières quand il a été arrêté. Il n'a pas été arrêté les armes à la main. Il était responsable des jeunesses communistes juives qui étaient l'antichambre des FTP-MEI pour les jeunes. Et puis après on sélectionnait ceux qui pouvaient tirer et tuer. Il est déporté à Auschwitz avec une cinquantaine d'autres, des jeunes du 11e arrondissement, un quartier très attachant pour plein d'autres raisons. Et comme ils étaient jeunes, ils sont pas allés à la chambre à gaz. On les mettait au travail, ils étaient tous juifs, hein, ceux qui ont été arrêtés, et une partie d'entre eux a survécu, donc Krasucki et quelques autres. Et ce qu'il y a de touchant dans ce qu'il dit, moi, ce qui me touche, c'est pas ce qu'il dit pour aujourd'hui. Non pas que je ne sois pas d'accord, bien sûr. C'est ce qu'il me dit pour hier, parce qu'il porte témoignage d'un monde de petites gens, qui était un monde merveilleux de générosité, de gentillesse, je n'ose pas dire de courage. Je parle du monde juif du 11e arrondissement, qui était un monde où se battre, quand il fallait se battre, était une chose aussi naturelle que de se tenir bien à table. Il n'y a pas de question d'héroïsme. Ils y vont naturellement. Vous savez, comme dans le chagrin et la pitié, il y a les deux vieux paysans là qui ont demandé pourquoi vous avez fait de la résistance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, répondent-ils. Pour eux, c'est pareil. Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent d'autre, ces juifs-là, que d'aller tuer des Allemands quand on leur permettait de le faire? Ils ont eu la chance de le faire, et ceux qui sont morts ont eu la chance de mourir au combat.
Et ils sont morts, pour certains d'entre eux, le 21 février 1944, lorsque les 22 des 23 du groupe Manoukian ont été fusillés, donc le 21 février 1944, c'est-à-dire il y a 60 ans à un jour près, et que l'on retrouve aussi dans votre livre, dans Reski, que je recommande, dont je recommande la lecture, L'Affiche Rouge, un livre publié aux éditions du Félin. Vous êtes également l'auteur d'un livre rouge publié aux éditions du Seuil, et de L'Enfant Juif et l'Enfant Ukrainien, réflexion sur une imposture, publié aux éditions de l'Aube. À lire également La Libération Inconnue, à chacun sa résistance, un livre de Maurice Girachfus qui sortira aux éditions du Cherche Midi fin avril. Vous avez pu entendre des archives extraites de l'émission L'Histoire en Direct, diffusée sur France Culture en décembre 1989, ainsi que la lecture du texte de L'Affiche Rouge par Jacques Charby. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Daligaud, documentation Claire Destacan et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Je signale que la ville d'Ivry-sur-Seine, où sont enterrés les membres du groupe Manoukian, inaugurera dimanche prochain à midi à l'hôtel de ville une exposition retraçant l'histoire de ces étrangers résistants, auxquels un hommage sera rendu une heure avant cette exposition au cimetière parisien d'Ivry à 11h donc dimanche prochain. Le programme de la semaine prochaine, 5 rediffusions, lundi l'encyclopédie avec Elisabeth Badinter, mardi le diamant, mercredi les procès de Moscou, jeudi le jardinier de Louis XIV, le nôtre avec Éric Orsenna, enfin vendredi les dieux grecs. Bonne fin de semaine à tous, il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Chris.
Ben ouais, Chris.